Ben.
De la politique en une ce midi, avec cette séance à l'Assemblée hier, l'abrogation de la réforme du RNS a été adoptée. On parlera aussi Web3, crypto-monnaie et blockchain avec le PIX qui a ouvert ce matin. Et enfin, une idée lecture et un peu d'agenda pour ce week-end. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Sanchez, bonjour à tous.
Lucie, on commence en revenant sur cette séance à l'Assemblée d'hier. Ça y est, l'abrogation de la réforme du RNS a été adoptée.
Oui, une séance plénière organisée spécialement pour faire voter cette proposition de loi qui est donc bien passée, malgré la tentative de dernière minute de la nouvelle ministre de la Santé qui a essayé de garder la réforme du gouvernement en la repoussant en 2027 avec un amendement. Sans succès, l'abrogation a bien été votée. On écoute Ray Hay.
C'est une abrogation qui était prévue. Ma volonté, c'était quand même d'essayer de sensibiliser aux mesures qui sont bonnes dans cette loi, qu'il sera important de reprendre, je pense, dans la nouvelle loi, et puis surtout d'avertir sur le fait que nous allons entrer dans une période un petit peu sensible où on devra répondre à plusieurs questions. Donc ma volonté, c'est de rassurer en disant que j'essaierai de faire le lien pour que cette période soit une transition qui se fasse dans la meilleure option possible, en fait. Mais évidemment, cette abrogation était programmée. Nous avons entendu. Nous restons à l'écoute et nous restons disponibles pour travailler avec tout le monde.
Cet amendement de la ministre a mis un peu d'huile sur le feu. Des représentants ont dénoncé des pressions pour que certains d'entre eux votent cet amendement et rejettent l'abrogation. On leur aurait même parlé de conflit d'intérêts. On écoute Edouard Fritsch.
Le président de la Polynésie française a une autre vision de la démocratie. Effectivement, il fait pression depuis hier sur les élus de l'Assemblée afin que l'on puisse effectivement discuter de cet amendement qui a été déposé, signé par la ministre aujourd'hui. Et cette même ministre vient nous dire qu'il faut de la concertation, il faut du temps, il faut en parler. Et ils ont tenté, en fin de compte, de faire basculer la majorité contre le projet, de les faire basculer sur une autre vision, puisque eux proposaient plutôt la suspension que l'abrogation. C'est des méthodes d'un autre temps.
Des méthodes d'un autre temps, mais qui n'ont pas marché. Les élus Tavini, Tapura et Ahip ont adopté l'abrogation, ce qui laisse les ressortissants un peu dans le flou. Beaucoup se demandent quoi faire, mais Nicole Sanquer a relancé la balle à la ministre.
Ma suggestion a été de dire à la ministre, pour éviter les contentieux, les problèmes juridiques, elle avait le pouvoir de suspendre l'arrêté d'application. Comme ça, elle pourrait apaiser tout le monde en attendant que la loi soit promulguée. Là, il n'y a que le gouvernement qui peut décider. S'ils nous ont entendus, au lieu de continuer à faire de la désinformation ou bien de mettre de la pression sur les élus avec les SMS, la pression sur la population avec les annonces du président.
Suspendre l'arrêté d'application de la réforme, impossible selon Ray Hay Ansker.
Oui, elle m'a appelé à déposer un arrêté. Je rappelle que les arrêtés d'application pour cette loi, ils ont été pris en février 2026 et que rétroactivement, je ne peux pas les annuler. Donc je vais prendre la mesure de ce qui a été proposé et voir avec mes juristes ce qui est possible de faire.
La ministre de la Santé a également indiqué qu'elle consulterait le conseil d'administration et le directeur de la CPS au sujet des mesures à prendre et du message à donner à la population, notamment sur la question de la fin de la primauté du RGS sur le RNS. Ray Hay Ansker qui invite toujours les ressortissants concernés à s'affilier au RNS avant la date butoir du 31 mai. Mais c'est au tribunal que ça devrait désormais se passer. Nicole Sanquer avait annoncé qu'AIHIP déposerait un référé de suspension contre les arrêtés d'application de la réforme dès le lendemain du vote de l'abrogation, aujourd'hui donc. Et la représentante, jointe par téléphone, confirme que c'est bien en cours. Elle espère d'ailleurs que la décision du tribunal soit rendue dès la semaine prochaine. Nous vous tiendrons bien sûr informés.
Un seul texte pendant cette séance, mais beaucoup de questions orales au gouvernement.
Oui, celle sur la gouvernance, la crise politique dont on vous a parlé ce matin. Et puis, il y a eu aussi la DSP dans l'aérien, la délégation de services publics d'Air Tahiti pour la desserte de 32 petits aérodromes arrive à échéance le 30 juin et le 15 juillet pour la DSP relative aux Marquises. Nicole Sanquer a interpellé le gouvernement sur leur prolongation, envisagée sur un an seulement en attendant le futur schéma directeur. Une durée trop courte pour la représentante pour donner de la visibilité aux archipels. Mais le président du pays n'en démord pas, ce n'est pas possible juridiquement actuellement de faire plus. Une prolongation au-delà de 12 mois ne serait plus une mesure transitoire, mais un renouvellement déguisé, on l'écoute.
Sur la nécessité de ne pas figer le système existant, prolonger la DSP au-delà d'un an sans en revoir le périmètre et les équilibres reviendrait à pérenniser des biais aujourd'hui clairement identifiés. Des exclusivités sur l'avitaillement, l'assistance en escale et le fret. Des effets de bord qui empêchent l'émergence d'une concurrence là où elle serait pertinente. des contraintes qui freinent le développement des vols charters et des solutions logistiques alternatives. La DSP actuelle constitue une avancée par rapport au dispositif antérieur, mais elle reste perfectible.
Voilà, il a aussi été question des piscines de Tahiti 2027. On avance et on respecte les règles des marchés publics, a assuré la ministre. Du dossier aussi de la fosse à ciel ouvert de la Punaru, un site exploité depuis plus de 40 ans sans autorisation ICPE. Le gouvernement estime que la DIREN a joué son rôle.
On continue avec cette formalité pour les pêcheurs côtiers professionnels. Ils ont 4 mois pour s'équiper d'une balise de traçabilité.
Une mesure prise par arrêté ce mardi qui oblige les Potimarara et les Boniti à disposer d'une balise VMS d'ici le 30 septembre. Ce dispositif électronique qui transmet en temps réel la position des navires est en réalité obligatoire depuis 2017. Mais aujourd'hui, seuls les bateaux de pêche hauturières en sont déjà équipés. Les modèles de balises destinés aux bateaux côtiers présentés à l'époque n'étaient pas adaptés en termes d'installation et de coûts. De nouveaux modèles sont maintenant disponibles et un arrêté a été pris en décembre dernier pour obliger les Potimarara et les Boniti à s'en équiper d'ici le 30 juin. Une date butoir finalement repoussée donc jusqu'au 30 septembre. La direction des ressources marines s'est rendue compte que les pêcheurs n'avaient pas été suffisamment informés de cette nouvelle réglementation. Le directeur de la DRM, Moana Mahama Tuyahutapu.
La difficulté, c'est qu'on s'est rendu compte au bout de 3 mois qu'on avait très peu de demandes, si ce n'est quasiment pas de demandes des pêcheurs. Et donc, on s'est vite rendu compte qu'on n'avait pas suffisamment communiqué pour que nos pêcheurs se mettent en règle par rapport à l'obligation de juin 2026. Ce qui a été décidé au niveau de la DRM, c'est de faire des campagnes de communication permettant à l'ensemble de nos usagers d'être au courant du dispositif.
Chez les pêcheurs professionnels, cette obligation de s'équiper d'une balise ne fait pas l'unanimité. Certains craignent d'être constamment suivis par la DRM. Moana Mahama Tuyahutapu souligne de son côté que le but n'est pas de surveiller 24 heures sur 24 les pêcheurs, mais quand même de faire quelques petites vérifications. Si les déclarations de pêche mensuelles sont bien conformes, si le carburant détaxé va bien à la pêche et que les professionnels ne vont pas dans des zones interdites, ces balises peuvent aussi aider aux recherches en mer en cas d'accident ou de disparition.
Changement d'ambiance avec l'inauguration du centre culturel chinois ce matin.
C'était un vieux projet que la communauté chinoise avait depuis longtemps à la reconstruction du temple Kanti après un incendie. L'idée était de faire des logements, des bureaux et des foyers aussi à côté. Et puis petit à petit, le projet a été modifié et pour en faire aujourd'hui un centre culturel. Les travaux avaient commencé dès 2022 et ça y est, c'est terminé. Il y aura un niveau dédié à l'accueil de personnes âgées, un autre dédié à la culture chinoise et les bureaux de l'association Sinitong. On écoute sa présidente Aline Flore.
C'est un lieu de rencontre parce qu'on a remarqué que les personnes âgées sont soit cantonnées dans une maison de retraite ou soit cantonnées à la maison. Ils sont, entre guillemets, si on peut dire, à l'abandon. Donc ici, ce qui va permettre à ces personnes âgées de rencontrer d'autres personnes, alors de se mettre ensemble autour d'une table en train de jouer au mahjong, en train de discuter. Donc voilà. Hein, donc, et c'est un lieu aussi où s'il y a des jeunes qui veulent apprendre, qui veulent se renseigner sur la vie de la communauté chinoise, et bien, ce sera un lieu de rencontre, de partage.
Voilà, ce vendredi, une centaine de personnes étaient présentes pour assister à cette inauguration tant attendue.
On va parler du PIX maintenant. La deuxième édition a été lancée ce matin.
Le Polynesian Islands Crypto Summit, porté par Helmut Banner et les équipes de Dinovox en partenariat avec la DGEN, a effectivement ouvert ce matin. Toujours le même objectif, rendre accessibles les sujets web, crypto-monnaie et blockchain à tout le monde. On écoute Helmut Banner.
C'est d'accéder au plus grand public possible afin que ce dernier puisse se découvrir une passion sur ces sujets-là. Alors ou pas, parce que encore une fois, tout le monde n'est pas fait pour s'intéresser au sujet du minage de Bitcoin, à la finance décentralisée, au Web3, et c'est parfaitement légitime. Mais le PIX a vocation à offrir une espèce de fenêtre de tir intellectuel pour que quiconque est intéressé vienne pendant les 3 jours, ou pendant juste une demi-heure, ou fasse un atelier, vive une conférence, discute avec nous, et ait l'opportunité de se dire « Ok, c'est pas si compliqué que ça ». Les idées reçues, et Dieu sait qu'il y en a dans ce sujet, peut-être qu'elles sont pas un peu comme toutes les idées reçues si exactes que ça.
Au programme des conférences, un village pour les professionnels et des ateliers découvertes aussi, notamment des formations sur les arnaques en ligne.
Parmi les 5 ateliers qu'on fait, il y a du mining de Bitcoin, des NFT, etc. Il y en a un qui me tient très à cœur. Ça s'appelle la Brigade Anti-Scam. On fait ça en coopération avec la gendarmerie, la NTEC de la gendarmerie de Fara. Et l'idée, c'est d'expliquer et de donner des outils en moins de 30 minutes à tout le monde pour détecter des escroqueries financières et dont on sait qu'il y a souvent la crypto dedans, sur Internet et sur les réseaux sociaux, et puis sensibiliser sa famille au passage. Et on va essayer de recruter des brigadiers anti-scam grâce à ces ateliers-là.
Et tout est gratuit, le PIX, c'est donc aujourd'hui, demain et dimanche.
Et un peu de lecture maintenant pour ce long week-end de 3 jours.
Les éditions Au Vent des Îles viennent de sortir un nouveau roman noir, le premier d'Arnaud Garnier. Ce médecin pédiatre a exercé pendant 8 ans à Raiatea et c'est là où il a trouvé l'inspiration pour cette histoire qui se termine mal. On suit notamment Ange Delagrive, un journaliste désabusé et alcoolisé qui doit interviewer Jacques Brel, deux prédicatrices aussi qui adorent semer des idées apocalyptiques dans la tête des gens, et la quiétude d'un atoll des Tuamotu avant la tempête. Un thriller violent qui tient en haleine jusqu'à la fin. Ça s'appelle Servitude et ça se dévore donc jusqu'à la fin.
Et on termine avec l'agenda.
Oui, l'agenda avec d'abord la marche blanche organisée par l'association Tes Fétis ce samedi. Un hommage aux enfants victimes de violences, notamment la petite Hayden, décédée voilà 1 an à la suite de graves maltraitances en famille d'accueil. Cette mobilisation silencieuse veut surtout marquer le début d'un mouvement plus grand pour renforcer la prévention, soutenir les familles et sensibiliser à la non-violence éducative. Le départ est prévu à 8h à Taonoa et le cortège longera le front de mer pour rejoindre l'avenue Pouvana et le Haut Commissariat, et c'est donc samedi. La Nuit des Musées, célébrée depuis 2012 à Tahiti, est organisée ce week-end. C'est l'occasion de découvrir les espaces du Musée des Îles d'une manière différente, avec un parcours enrichi de performances musicales, d'ateliers créatifs et d'une projection de documentaire du FIFO. La soirée prévue samedi s'inscrit dans le programme aussi des célébrations de Matari Iraro. Ça commence à partir de 18h. Et le même soir, on a aussi la Puromu Party de Papeete. C'est de 18h à 22h30 sur tout le front de mer. 4 scènes sont prévues avec sur chacune d'elles plusieurs artistes. Une soirée festive, familiale, gratuite et populaire à ne pas rater. Et attention pour ceux qui seront sur la route, les détails de fermeture du front de mer pour la circulation